Après la Pologne, on va aller en Corée, Corée du Sud, et je vais vous parler de la Corée du Nord. Donc, je vais d'abord vous saluer. Annyeonghaseyo. Voilà, bon, on va peut-être continuer un petit peu le cours de coréen. Alors, les Coréens sont très organisés. Et alors, après chaque message, ou chaque cours, si c'est un enseignement, ils prient tous ensemble et ils commencent par « Joyo !» Et ils le disent trois fois. Et après, tout le monde prie ensemble. Et « Joyo », donc, c'est « Ju » Seigneur et « Yo » au Seigneur. Et pourquoi trois fois? Ça vient de Daniel 9, la prière de Daniel, justement, quand il lit la prophétie de Jérémie, qui voit Jérémie annoncer que l'exil à Babylone durerait 70 ans. Or, l'armistice, cette année, l'armistice de la guerre de Corée, ça fait 70 ans, c'était le 27 juillet 53. Donc, il y a une relation. Et quand il lit ça, ça déclenche chez Daniel une intercession et il va prier « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, descends et délivre-nous. » Donc voilà pourquoi les Coréens font cette prière trois fois, « Juyo ». Voilà, nous sommes allés donc cette fois-ci en couple. En janvier, j'étais tout seul, j'étais encore célibataire. Même si le Seigneur nous avait déjà fait nous rencontrer, il faut dire qu'il y a un an, on ne se connaissait pas et on ne se doutait de rien. Donc voilà, je voudrais encourager, j'ai essayé d'encourager ma fille Sarah hier au téléphone aussi là-dessus, je voulais encourager pour ceux qui ont des problèmes et qui sont tristes de rester célibataires, le Seigneur entend. Donc nous sommes allés en Corée du Sud à une conférence, c'était organisé par Esther Prayer Movement. Donc, ils font des conférences deux fois par an, c'était la 30e, donc j'ai commencé il y a 15 ans. Ils sont très engagés aussi, forcément, dans la prière, dans l'activité politique. Celui qui dirige est professeur Lee, qui est professeur d'université en économie. Et lui, il va même devant l'Assemblée nationale, il fait des discours, ils font des manifestations. Et ils sont organisés aussi au niveau de la prière, tous ceux qui sont dans ce mouvement. À la fin de la conférence, vous avez une feuille A4 où vous remplissez, vous avez des tas de cases. Je vais donner tant, je prie de telle heure à telle heure, je fais telle réunion, je prie pour tel sujet. Et maintenant, cette fois-ci, je m'engage à aller en Corée du Sud, en Corée du Nord pendant un an. Ils se préparent à aller pendant minimum un an. Aussitôt que les frontières s'ouvrent, ils sont prêts pour aller secourir le Nord. La situation est en effet absolument catastrophique en Corée du Nord. C'était déjà pas brillant avant, mais maintenant avec le Covid, ils ont aussi fermé les frontières, pas seulement avec le Sud, évidemment, mais avec la Chine. Or, c'était la seule source de survie pour beaucoup de Coréens qui n'arrivent plus à manger. Ils doivent se nourrir dans les champs, les décorces des arbres, des feuilles d'arbres. Donc c'est aussi une catastrophe écologique parce que les arbres, si vous enlevez l'écorce, ils ne sont plus très brillants après. Ce n'est pas le plus grave vu l'état de la population. Il semble qu'on est maintenant à... C'est pire que la famine des années 90 quand le fils du grand leader Kim a pris le pouvoir, enfin a succédé à son père, puisque vous avez une dynastie communiste. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment une application de la culture coréenne avec le communisme. Donc c'est absolument une catastrophe, c'était déjà très grave dans les années 90, mais là, maintenant que la Chine a fermé la frontière, enfin, c'est surtout la Corée du Sud qui a fermé. Ils construisent même des murs le long de la rivière. Bon, c'était toujours difficile de passer. Mais au moins, les gens pouvaient passer, aller chercher de la nourriture, manger en Chine, trouver du travail en Chine. C'était tout à fait illégal. Mais voilà, au moins, ils survivaient. Mais puisque le grand leader, qui est le jeune leader maintenant, Kim Jong-un, a vaincu le Covid, je ne sais pas si vous l'aviez appris, il a vaincu le Covid, donc il n'y a plus de Covid en Corée du Nord, et pour que ça ne rentre pas de la Chine, c'est pour ça qu'ils ferment la frontière. Et même l'aide, c'est vraiment une catastrophe, les gens n'ont plus à manger, donc il y a des émeutes, il y a des suicides, le taux de suicide a augmenté, totalement désespéré. Et il y a même des bandes organisées qui pillent tout. Enfin, c'est vraiment terrible. Bon, mais on est à 70 ans et le Seigneur est fidèle. Je vais aussi vous dire un peu ce que nous avons eu dans la prière, dans les visions. Donc, ah oui, on était donc pour les 70e anniversaire de l'armistice. Et quand le Nord a attaqué le Sud en juin 1950, l'ONU est intervenue. C'est quand même une agression d'un pays de l'ONU contre un autre. Et les États-Unis ont demandé à l'ONU de les aider. Et il y a eu 16 nations qui ont aidé au niveau qui se sont engagées. Alors nous représentions la France. Il y avait la Colombie en Amérique, la représentante colombienne, son oncle était militaire et elle a épousé un Américain dont le père avait été aussi militaire et avait fait la guerre de Corée. Donc vous voyez, elle avait son oncle et son beau-père qui étaient dans cette guerre. Donc il y a eu différents pays. Le Seigneur a permis donc que ce pays ne tombe pas aux mains des communistes, parce que les chrétiens seraient tous passés, il y avait déjà des massacres. Et on a pu aller sur l'île de Ganghwa, où il y a un centre pour la paix. C'est un promontoire, c'est une île qui est de l'autre côté, à 2 kilomètres environ. Il y a la Corée du Nord, donc on voit la Corée du Nord de l'autre côté, enfin on est censé la voir, parce que le jour où on est allé, il y avait un manteau nuageux, c'était pas du bruit, un manteau nuageux sur toute la péninsule coréenne, là au moins ils étaient unis, et on ne voyait rien, on ne voyait même pas la côte, donc il y a une partie qui est à moins de 2 km, on ne voyait rien, bon, du temps qu'on ait des explications. On a vu quand même se lever, un peu les nuages se lever, on a pu voir la côte de Corée du Nord. Il faut savoir que Séoul, la capitale de Corée du Sud, est assez proche de la frontière, une soixantaine de kilomètres, mais elle est à 1 heure de la côte. L'aéroport Incheon de Séoul est sur les îles. Il y a tout un groupe d'îles dans la mer jaune côté Chine. Et là, on est dans l'île la plus septentrionale. Une île aussi qui il y avait beaucoup de chrétiens de l'autre côté, donc qui a été un lieu de passage. Beaucoup de chrétiens ont pu s'enfuir par là. On peut se demander cette guerre aussi, pourquoi cette guerre, 3 ans de guerre. Or, après un an, tout était déjà joué. L'attaque du Nord, la contre-offensive américaine qui a failli tout reprendre, mais comme les Coréens le voient, la Chine et les pays ne veulent pas d'une Corée unifiée. Donc les Chinois sont intervenus et puis finalement c'est revenu à la ligne de départ. Bon, du côté de cette île, il y avait un petit peu plus de Corée du Sud. Mais les chrétiens ont pu s'enfuir. Voilà, il y a quand même eu, on estime, à 2 millions de chrétiens qui étaient bloqués au nord, qui ont pu s'enfuir et qui ont fui au fur et à mesure des massacres. Bon, ils ont assez vite compris ce qui leur arriverait. Et dans cette île, c'est même, elle avait été prise, et ce sont les étudiants, les élèves qui sont venus reprendre l'île. Alors, on a pu prier, là, tous ensemble, là-haut, on a senti un vent qui s'est levé, donc on a pensé à Ézéchiel 37, les ossements desséchés. On a eu aussi, moi j'ai vu un visage d'une femme. Alors oui, ce qu'il faut dire peut-être avant, déjà en janvier dernier, une de l'équipe avait vu une femme âgée qui n'avait plus la force d'accoucher. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle était vraiment âgée, mais elle était totalement épuisée, hein, mal nourrie, totalement épuisée. Donc, c'était à nous, les nations qui sont venues déjà aider, de venir l'aider à accoucher. Et c'est peut-être ce visage-là, j'ai réalisé qu'après, moi, j'ai vu un visage d'une femme, donc, oui, au moins la cinquantaine, qui était tout en larmes. Alors, première chose, elle avait les yeux, la tête levée. Bon, ça paraît normal, mais nous, on est dans un pays où on est libre. Vous pouvez lever la tête, vous pouvez baisser la tête, tourner à droite, à gauche, on ne vous dira rien. Là-bas, en Corée du Nord, c'est interdit de lever les yeux autre que sur les statues des deux Kim, le père et le fils. Et c'est un véritable, oui, c'est un véritable culte. Il y aurait, il semble maintenant, 38 000, ils pensent que c'est même 40 000 statues. Donc vous en avez dans chaque village. Et vous devez vous prosterner devant chaque fois que vous passez. Hein, il faut pas, donc vous n'avez pas le droit de lever les yeux. Surtout si vous êtes chrétien, parce qu'ils savent très bien que les chrétiens lèvent les yeux vers le ciel, vers Dieu. Or, c'est totalement interdit. Donc déjà, cette femme qui représentait certainement la Corée du Nord, elle était vraiment les larmes, les yeux remplis de larmes. Et après, je l'ai vue rayonnante de joie, donc le visage levé. Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Et autre chose qui nous a paru important, il y avait du vent. Les nuages étaient légèrement levés. Et après, ça s'est redescendu et la Corée du Nord a disparu. On ne voyait plus. On était sur un promontoire quand même, à 2 kilomètres seulement. Hein. Le vent, normalement, aurait dû chasser les nuages. Mais c'est certainement Dieu qui montre une intervention surnaturelle de Dieu. Une des participantes aussi à ce moment-là, malgré tous ces nuages, elle a vu des rayons de lumière. Et en demandant au Seigneur qu'est-ce que c'était, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il y a une forte activité angélique, où ça ? En Corée du Nord. Vous voyez ? Et s'il y avait des nuages, on est ensuite rentré à Séoul, la capitale, et c'était toujours aussi nuageux, donc c'était vraiment, c'était sur tout le pays. Le Seigneur montre qu'il cache ce qu'il fait. Il fait de grandes choses, même en Corée du Nord. Amen. Nous avons eu différents témoignages aussi de Coréens du Nord qui ont réussi à fuir. Et cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, ils expliquaient surtout comment ils avaient pu fuir. C'est absolument dramatique, parce que si la frontière avec la Chine, il y a deux rivières... est une source de survie pour simplement même pas mourir de faim, à ce point-là. Il y a quand même un trafic d'êtres humains, donc les femmes, évidemment, vendues pour la prostitution ou mariées de force à des Chinois. Les enfants sont pris, et donc il y en avait une qui disait elle n'a pas retrouvé ses enfants, hein, des enfants en bas âge, hein, malgré toutes ses recherches. La Chine a durci sa position et elle a démantelé pas mal de réseaux d'églises nord-coréennes ou chinoises qui soutenaient tous les réfugiés, tous ceux qui s'enfuyaient. Beaucoup sont devenus chrétiens. On estime qu'il y a 35 000 en Corée du Sud, il y a 35 000 Coréens du Nord d'origine qui ont pu s'enfuir et les trois quarts sont chrétiens. Donc le Seigneur a agi. S'ils sont pris par la police chinoise et renvoyés en Corée du Nord, c'est la prison, la torture, et pour les femmes enceintes, avortement, première chose qu'on fait, avortement obligatoire, quel que soit l'âge de la grossesse, sans anesthésique, évidemment. Donc vous voyez, c'est absolument une situation terrible. Mais une jeune sœur de Hollande, enfin qui représentait la Hollande, qui a vu ces rayons de lumière, et le Seigneur lui a dit, c'est une forte activité angélique. Plus tard, elle a eu un rêve où elle voyait une Coréenne du Nord, enfin une réfugiée d'origine nord-coréenne, et elle lui demandait, mais est-ce que Jésus t'a parlé? Est-ce que Jésus t'a dit quelque chose? Et elle lui a répondu, oui, un seul mot, inéni. Alors inéni, c'est de l'hébreu, ça veut dire me voici. Alors évidemment, on pense déjà, chaque chrétien, enfin tous ceux qui ont, tout homme, toute femme, un jour ou l'autre doit répondre à cette question. Je veux t'envoyer, hein, vous avez Ésaïe, quand il a sa vocation, qui enverrai-je, dit Dieu, il répond ce mot inéni dans le texte, hein, me voici. Mais c'est aussi, quand on étudie le mot, c'est aussi Dieu, c'est aussi Jésus, suivant les cas, qui dit « me voici ». Il y a un passage d'Ésaïe qui dit, Dieu reproche encore à Israël d'avoir cette tournée vers les idoles, d'avoir abandonné, et il dit « mais tu crieras à moi et je te répondrai, tu m'appelleras au secours et je dirai « me voici ». Donc c'est aussi très positif, le Seigneur dit « me voici, je prends les choses en main ». Ça veut vraiment dire, il a entendu et il vient. Ah oui, j'allais oublier, ça c'est important. Et cette sœur, c'est vraiment ce qu'elle avait compris. Elle sentait que c'était positif, que le Seigneur allait agir. Et elle comprend qu'il va y avoir une moisson d'âme en Corée du Nord. Et après, ils vont dire à Dieu, envoie-nous, me voici ou nous voici, envoie-nous pour être missionnaire dans les nations. Parce que, oui, faut dire aussi que la Corée du Sud, il y a 70 ans, c'était classé l'avant-dernière nation du monde, économiquement. Ils sont passés si vous regardez les classements, à la 9e, 10e puissance mondiale, en 70 ans. C'est quand même la bénédiction de Dieu. Et c'est la nation qui envoie le plus de missionnaires dans le monde, actuellement. Donc en Turquie, on a eu le témoignage d'un missionnaire turc, mais il a vécu des choses. C'est vraiment l'apôtre Paul, hein. C'est assez incroyable. Ils sont aussi, il y a des grandes entreprises de BTP dans les pays d'Asie centrale qui sont donc majoritairement musulmanes, qui construisent, donc ils sont employés de ces entreprises de BTP coréennes, et puis ils sont missionnaires là-bas. Donc vous voyez, une bénédiction, et pour eux aussi, ce qui pour nous est un petit peu compliqué, vous allez comprendre. Ils ont la vision, les chrétiens ont la vision, avoir des enfants pour leur montrer, leur apprendre l'évangile, leur montrer Jésus et qu'ils deviennent missionnaires dans le monde. C'est cette vision-là. Hein. Dernière chose aussi, ils ont compris récemment que ce n'est pas le pasteur qui s'occupe de religion et les politiciens s'occupent de diriger le pays, s'occupent de politique, mais que l'Église doit donner aussi son mot. Et depuis quelques années maintenant, chaque pasteur va régulièrement voir le député de sa circonscription et il s'entretient et il lui dit voilà ce que l'Église pense, ce que la Bible pense. Tout ce qui a été dit des différents intervenants, celui de l'Afrique du Sud a parlé par exemple des soudains de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, je me suis dit, mais c'est plus la peine. Hein. C'est bientôt, l'ouverture est bientôt. Moi, je pense même que ça peut être le mois prochain. Dieu va nous étonner. Il prépare les choses. Alors, je voudrais parler d'une vision que j'ai eue. Et c'est, quand j'ai vu vraiment cette brume sur la Corée du Nord et puis sur la Corée du Sud, j'y ai repensé. Donc il y a déjà un an et demi, j'ai vraiment vu, comme de un sac de farine ou un sac de plâtre qui tombait. Hein. C'est quelque chose de tout blanc. Et donc vraiment, c'était après, comme les tempêtes de sable. Si vous avez Lucky Luke, Non, c'est pas lui qui fixe Tintin. Les déserts dans le sable dans certains épisodes. Donc ça venait. Et là, je crois maintenant, on y est. En plus, l'année dernière, lors d'une réunion de prière ici, j'ai vu une petite croix, c'était une petite croix dans le ciel, et elle a reçu tous les éclairs. Mais vraiment, concentrée d'un orage, un ciel noir, et toute la foudre, tous les éclairs, toute la foudre tombait sur cette petite croix. Alors, c'est une vision, hein, donc c'est symbolique, hein. C'est pas la taille de la croix est peu importante, c'est surtout que c'est une croix en fer, comme il y en a sur les églises, et ça sert de paratonnerre. Donc la signification, Jésus a porté toutes les condamnations. Il a tout reçu. Hein. Tous ces éclairs, toute cette haine, cette rage de Satan s'est tombée sur lui, à la croix. Et elle était en fer, alors certains vont dire, ah mais non, la croix était en bois, mais si, je me suis dit, mais si elle était en bois, elle cramait, il n'y aurait plus rien. Avec tout ce qu'elle a reçu de décharge, hein, c'est aussi important que les feux qu'on voit sur le Canada ou qu'on voit partout actuellement. Hein, ça. Donc Jésus a tout accompli, cette petite croix était noire, c'est bien la croix de Jésus. Ensuite, je l'ai vu grandir et puis devenir... Je n'ai pas réalisé de suite comme cette croix-là, gris métallique. Alors, ce n'est pas que Dieu aime le gris métallique, hein, bon, même si c'est à la mode. C'est simplement, n'oubliez pas qu'elle a reçu des décharges, la colère de toutes les puissances des ténèbres. Et elle devrait être au moins très noire. Hein. Non, ça n'a rien fait. Vous voyez, elle est devenue comme ça, elle a grandi, ça ne lui a rien fait. Bon, enfin, ça ne lui a rien fait, il a tout pris, hein. On ne souffrira jamais autant, même malgré qu'on soit coupable, nous, mais pas lui. Mais il est ressuscité. Et peu de temps après, à la réunion de prière à Villefranche, j'ai revu cette vision et j'ai vu la croix qui grandissait, et elle venait sur nous et elle nous englobait. Donc vous voyez, c'est un peu bon, ce gris métallique, c'est pas très loin du... J'ai l'impression d'un nuage blanc. Hein. Et c'est un peu difficile à expliquer, mais la croix prend tout, elle vient englober toute la terre comme une brune blanche qui envahit tout et cache aussi les plans de Dieu. Il y a deux choses qu'il faut voir. Comme pour la Corée du Nord, où il y avait cette forte activité angélique et Dieu et les nuages sont retombés, on ne voyait plus rien. Dieu cache, il cache ce qu'il fait. Mais le diable nous fait croire, prenons le cas de l'Antichrist, parce qu'il faut voir aussi, on nous a bien, enfin, une des responsables, qui est la responsable des États-Unis, qui avait un réseau de prières par Internet. Elle a bien expliqué, on est en ce moment à un temps où il y a la moisson qui se prépare et en même temps les récits bibliques de la fin des temps. Il y a de la fin du temps sur le plan biblique. Il y a deux choses qui se font en même temps. Et on nous fait croire, par exemple, prenons l'Antichrist, que l'Antichrist, il est l'équivalent du Christ. Ça, c'est totalement faux. Hein. Rien n'est équivalent à notre Dieu. Prenez l'image d'une fourmi, hein. Elle peut vous piquer, d'accord, hein, mais même s'il y en a plusieurs, c'est très embêtant. Mais vraiment, entre Dieu et Lucifer et Satan, Dieu et l'homme, il y a cette différence. C'est même pas le même monde. On n'est pas dans le même monde. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de l'éventuel antichrist qui arrive. Il y en a qui ne pensent qu'à ça. Regardez Jésus, hein. Jésus, d'un regard, il détruit tout le monde. Quand il vient dans l'Apocalypse, il est à la tête de son armée, sur un cheval blanc, et l'armée, à la limite, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Parce que c'est lui, devant, qui détruit tout le monde, l'antichrist, le faux prophète, enfin toute la clique. Hein. Il n'y a aucune mesure. Il vient prendre tout. Comme il a dit à Josué quand ils sont entrés juste avant la conquête de Jéricho, Si vous vous rappelez du passage, Josué voit un ange et il lui dit, mais tu es de quel côté? Enfin, il voit l'ange de l'Éternel en plus, donc c'est carrément Jésus qui était là. Tu es de quel côté? Et il lui répond, c'est assez surprenant, Josué lui dit, mais t'es pour nous ou pour nos ennemis? Mais l'ange de l'Éternel répond, ni l'un ni l'autre. Il n'est pas au niveau d'une quelconque équivalence. Hein. Donc Satan a beau nous faire croire qu'il est le roi, qu'il est tout-puissant, qu'il peut tout. Hein. Toutes nos prisons que Gabi a citées en entrée, hein, l'ivronnerie, les excès de table et tout, toutes nos prisons, mais c'est aucun homme, ni Satan lui-même, ni cet archange qu'il était, non seulement n'arrive à la cheville, mais c'est carrément, ce n'est pas le même monde. Et Dieu vient tout prendre. L'Apocalypse aussi montre bien qu'à un moment donné, il est carrément dit que celui qui est juste se justifie, se sanctifie de plus en plus, et que celui qui est dans le péché continue dans le péché. Il y a un moment donné où ça se sépare. Et Dieu vient tout prendre. Jésus a vaincu, il a donné un temps de repos, plusieurs fois reculé. Nous pouvons toujours prier pour avoir plus de temps et que plus de gens se convertissent. Mais il vient, et c'est ce qu'il va faire en Corée du Nord assez prochainement. Alors, rapidement, je vais quand même y parler des 70 ans. Donc, c'est vraiment plus. On va voir, on passera de suite à... Bon, les 70 ans. Alors, pourquoi c'est important, 70 ans? J'ai cité Daniel, ça a déclenché chez Daniel une prière pour sa ville de Jérusalem. Vous trouvez ça dans Zacharie. Non, c'est Zacharie en parle après. C'est Jérémie 25, 11. Ou Jérémie 25, 11. Donc, Dieu envoie le roi de Babylone et il est dit qu'il lui donne 70 ans. Il est donné 70 ans au roi de Babylone pour assujettir toutes les nations. Et après, le verset suivant, voilà, ça assujettit le roi de Babylone pendant 70 ans. Après, ce même roi de Babylone sera jugé pour ce qu'il a fait. Donc, 70 ans, c'est un temps de... c'est un temps de jugement, c'est la fin d'un temps de jugement. 70 ans de la fin de la guerre de Corée. Enfin, il y a juste eu un armistice, ils n'ont jamais signé la paix. Hein. C'est toujours la guerre. Hein. C'est cité, alors, Jérémie 25, 11, c'est aussi en 29, 10, c'est toujours la même mention. Et, alors, Jérusalem, mais il y a beaucoup de ressemblances avec Jérusalem et les Coréens. Ils se considèrent vraiment... Ils ont accepté, c'est un peuple qui a accepté l'évangile, et division nord-sud, hein, même chose. Il y a eu un péché grave à la fin de la guerre qui a laissé entrer. Le temple a été détruit. Il faut se rappeler que Pyongyang, qui est l'actuelle capitale de la Corée du Nord, était appelée la Jérusalem de l'extrême-orient, tellement il y avait d'églises. Et je parlais des statues tout à l'heure. Les deux statues, donc vous avez deux statues magnifiques du fondateur Kim, le premier Kim, son fils. Elles sont construites, les deux premières qui ont été construites, elles sont construites à l'emplacement d'une église où il y avait eu un réveil. Le réveil du Pays de Galles en 1907 est arrivé en Corée et a commencé par la Corée du Nord. Enfin, ce qui est actuellement la Corée du Nord. À l'époque, c'était une seule péninsule, c'était un seul pays, hein, comme il a toujours été, sauf avec cette division voulue par les communistes soviétiques et chinois. Donc voilà, il y a une énorme ressemblance. Et vous voyez, c'est la sœur justement qui représentait la Colombie. Elle avait reçu, en priant sur les 70 ans, le Seigneur lui a montré Ésaïe 23, 15. Alors, on va peut-être le voir. Ésaïe 23, 15, il est parlé de 70 ans, et pas pour Jérusalem, pour une ville tout à fait païenne, voyez, c'est la ville de Tyr. Il arrivera en ce jour-là que la ville de Tyr sombrera dans l'oubli pour 70 ans. C'est d'ailleurs, je crois, Nebuchadnezzar qui a aussi détruit la ville de Tyr qui était sur une île. Et il a construit carrément une digue, comme ça il a envahi la ville qui n'a plus existé pendant 70 ans. Mais si vous lisez la suite, qui sera rétablie. Sera rétablie et un petit peu plus loin, il est dit que... Elle retrouvera ses richesses, mais elle les donnera à Dieu. Voilà, je voudrais quand même voir le fond biblique de mon message, acte 12. Donc on va voir acte 12. Et je vous conseille donc de... Enfin, j'ai eu ce verset en janvier, après avoir été la première fois donc, à cette conférence en Corée. Et ça correspond, j'ai réalisé que ça correspondait à la Corée. Hein. Donc, acte 12, c'est de l'autre côté. Vers la même époque, le roi Hérode, donc on est au début, chapitre 12 des Actes, donc c'est quand même le début de la première église, l'église primitive, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il a même fait arrêter Jacques, qui était un des chefs de l'église, et il l'a exécuté. On a la famille d'Hérode, une famille sanguinaire, aussi sanguinaire que la famille Kim qui dirige la Corée du Nord. Et chose curieuse, je ne sais pas si c'est curieux, celui-là c'est le troisième. Il y a Hérode le Grand qui a voulu tuer Jésus à sa naissance, le fondateur. Ensuite il y a eu celui qui était du temps de Jésus. Et puis celui-là arrive, et il y en aura un quatrième avec Paul, qui rencontrera Paul un peu plus tard. Donc une famille sanguinaire, et il trouve que l'assassinat de Jacques s'appelait aux Juifs, donc il se dit « je continue là-dessus ». Il fait arrêter Pierre, qui se retrouve en prison, il doit être jugé le lendemain. Donc lui, Pierre... L'apôtre Pierre, donc malgré son autorité spirituelle, il était quand même aguerri, c'était un chrétien mature et un responsable d'église. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans la prison, sachant que le lendemain, il y a un jugement qui est décidé d'avance, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc il s'apprête à mourir. Mais, verset 5, c'est ça, il y a deux étapes, et la troisième est en acte 13. Verset 5. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Donc les Coréens du Nord sont vraiment dans une prison, on ne s'imagine pas. Mais l'Église au moins sud-coréenne et des chrétiens dans le monde, l'Église universelle, hein, les enfants de Dieu prient. L'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. La suite, vous la connaissez. Dieu envoie un ange qui délivre Pierre. Ensuite, on passe à verset 12. Donc, Pierre se retrouve dehors. D'abord, il pense que c'est une vision, un songe qu'il a. Il réalise que non, les chaînes tombent. Parce qu'il était quand même... il y avait deux soldats attachés avec lui dans la prison, deux à la porte et deux encore à l'entrée de la prison. Donc, vous voyez un peu le... Tout ça y passe, l'ange le fait lever. Il arrive dehors. Bon, là, il réalise que dans la mission, c'est quand même bien vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Il réfléchit, il se dit, je sais qu'il y a des chrétiens qui prient dans la maison de Marie, la maman de Marc, le futur évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Il y va, il frappe à la porte. Et puis, il y a une servante donc, qui l'entend. Elle court, elle reconnaît que c'est Pierre. Au lieu d'y ouvrir, elle court dire aux autres, donc aux chrétiens, quand même responsables, qui priaient. Elle leur dit, ça y est, c'est Pierre est dehors. Et donc, verset 14 et 15, c'est Pierre qu'elle dit. Il est dehors devant la porte. Et qu'est-ce que les autres répondent, les grands dirigeants très spirituels, hein, alors que c'était comme une jeune servante, nouvelle chrétienne, toute zélée, hein, et qui avait plus de discernement spirituel que les plus âgés. Elle dit, mais tu es folle. Il prie pour la délivrance, pour que Dieu délivre Pierre. Et quand ça arrive, ben, tu es folle. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça, hein? Voilà, bon, je ne dirai pas plus, mais voilà. Au moins, bon, c'est sûr qu'avec le temps, on se fatigue et les difficultés de la vie, mais voilà, on est souvent comme ça. Hein. Mais au moins, voyez, l'Église prie, et l'Église coréenne du Sud prie. Voilà. Et alors, bon, il y a la suite. Le roi Hérode, bon, s'endurcit, il fait exécuter, après enquête, il fait exécuter les gardes qui n'avaient pas fait leur travail, d'après lui. Il a un conflit avec la ville de Tyr qui est au nord de son territoire. Il est donc roi sur la Galilée. Et il y a une réconciliation. Il arrive, il fait un discours, tout le monde l'admire, c'est la voix d'un dieu. Verset 23. Voilà. Un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Voilà, on est vraiment... Ça, c'est le but de Dieu. Alors, c'est très bien, là, Dieu a utilisé des anges. Hein. Vous avez un apôtre qui a quand même une autorité d'apôtre, hein, non seulement de chrétien mature, mais en plus d'apôtre, qui dort tranquillement. Bon, c'est déjà, il avait sa confiance en Dieu. Hein. L'Église prie, ça c'est la première chose. Donc, le rôle de chaque chrétien, il n'y a pas de petit chrétien, même la petite servante, vous voyez, elle a eu plus de discernement, si on peut dire, que les chrétiens aguerris et habitués à la prière. Hein. Et là, vous avez, Dieu utilise encore un ange et frappe Hérode. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, la gloire qui lui est due. C'est ça le problème, la gloire qui lui est due, que Satan détourne à son profit et que beaucoup d'hommes orgueilleux, c'est quand même la caractéristique de l'humanité, peut-être encore plus en notre siècle. Si Satan gratifie quelqu'un au niveau de l'orgueil, ça explose. Hein. Donc voilà. Et moi, je pense vraiment qu'on est là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un curseur. On est là pour la Corée du Nord. Hein. On est à ce verset 23. Hein. Donc, prions que le Seigneur fasse et que beaucoup soient délivrés. Hein. Que tous ceux, pas seulement Kim Jong-un, mais tout son entourage qui a vu les miracles de Dieu et qui refuse. Et en continuant à lire, donc c'était en janvier que j'ai vu ça, en continuant à lire quelques mois après, je vois le chapitre 13, verset 6. Donc là, c'est le voyage, on continue la vie de l'Église primitive, on est à Antioche. Et d'Antioche, Dieu demande, le Saint-Esprit oint et demande à... Saul, le futur Paul, il est appelé Saul encore de son nom, Saul et Barnabas, de partir en voyage missionnaire. C'est leur premier voyage missionnaire. Donc, ils arrivent en Chypre, qui est l'île à côté, au nord d'Israël, dans la Méditerranée. Ils trouvaient là un magicien juif nommé par Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci, donc ce Sergius Paulus, donc le leader, vous voyez, tout à l'heure on était le leader de la Galilée, Hérode, maintenant on est dans un autre leader de l'île de Chypre, le représentant de Rome, puisque c'était Rome qui dominait le monde à l'époque, et toute la Méditerranée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aura la même situation? Voyons, voyons. Celui-ci invita Paul et Barnabas, oui, et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, qui s'appelle Bar-Jésus, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Donc, on va faire comme pour Hérode, hein, un ange qui frappe le méchant. Non, vous avez une autre situation, verset 9. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Donc, tout à l'heure, on avait un autre apôtre, Pierre, qui dormait tranquillement, avec la paix du Seigneur, sachant que le lendemain, il serait exécuté. Donc, c'est quand même déjà bien qu'il soit en paix. Hein. Mais l'Église priait, je vous rappelle. Et là, Paul prend l'autorité qu'il a en tant qu'apôtre. Et vous allez voir ce qu'il dit. C'est quand même... Et ça tombe juste. « Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, donc à ce sorcier, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui y sont droits ?» Comment s'appelait ce magicien ? Bon, il était juif, donc il a eu la révélation du vrai Dieu, il devrait l'apporter, c'est le rôle de ce peuple pilote descendant d'Abraham. Il s'appelle Bar-Jésus, et ça veut dire, c'est Ben en hébreu, c'est Bar en araméen, fils de Jésus. Donc il est de la bonne religion, si on peut dire, et il est fils de Jésus, il porte ce nom-là du moins. Donc vous voyez, il y a une attaque, c'est pas seulement, c'est un sorcier, c'est un magicien, il se fait passer pour un prophète, c'est un faux prophète, mais avec toutes les caractéristiques et un nom, avec un nom fils de Jésus, il peut guère y avoir mieux. Hein. On n'est pas fils de Jésus, nous. On n'est pas les enfants de Dieu, on est les frères. Bon, voilà, si on veut être juste, on est les frères. Enfin voilà, hein. c'est notre neveu, alors si c'est le fils de Jésus. Hein. Bon. Donc, Paul intervient, utilise son autorité, mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper et tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, donc c'est instantané, comme tout à l'heure pour Hérode, au même instant, les yeux d'Élimas s'obscurcirent, il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Lui qui se disait prophète et qui donc annonçait la parole de Dieu, hein, et que tout le monde suivait. Dieu sait ridiculiser ceux qui se croient importants. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il a été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Donc vous voyez, vous avez deux autorités. Hein. Alors je crois que pour la Corée du Nord, il faut déjà passer au troisième temps qui est ce temps-là. Il faut déjà voir, ils ont la vision, ils se préparent à intervenir aussitôt que les frontières s'ouvrent. Il va y avoir, une fois que ce régime tombe, prions pour ça, il va y avoir le bouddhisme va vouloir revenir, toutes les sectes, donc il faut agir vite et il y aura des soi-disant prophètes, hein, Bar-Jésus, qui vont s'opposer. Et cette fois-ci, vous voyez, Dieu n'a pas utilisé un ange, mais il a utilisé son serviteur. Bon, ils étaient deux apôtres, il a utilisé Paul, qui a utilisé son autorité pour s'opposer au mal. Alors la différence entre les deux, rapidement, on peut se dire, mais pourquoi Hérode est mort sur le coup ? Hérode avait vu déjà, il avait entendu parler de ce que Jésus avait fait, il était en vie, il n'était pas le roi à l'époque, mais enfin il en avait entendu parler, et il l'a vu de ses propres yeux, il a mis Pierre en prison qui s'est volatilisé en quelque sorte, hein. Et il s'est endurci, il n'a pas voulu accepter, d'où le châtiment assez rigoureux de Dieu. Donc prions aussi quand même la proposition qui est faite sur le plan pratique. Alors vous avez ces trois points, hein, de acte 12 et 13 que l'on peut appliquer aussi à d'autres pays. Sur le plan pratique, ce qui était proposé là pendant la conférence, c'est que à chaque repas, quand vous priez avant le repas, les Juifs prient avant et ils remercient aussi après. Bon, mais c'est déjà bien si on le fait au début, de penser aux Coréens du Nord qui n'ont pas à manger. Autre proposition, c'est des jeûnes, un repas par semaine, hein, et prier pour la Corée du Nord, éventuellement faire aussi une prière par mois. Vous voyez, c'est vraiment urgent, il faut prier que ceux qui sont en train de mourir de faim, c'est le problème et de violence due à la faim et au désespoir, qui restent en vie jusqu'à ce que la moisson arrive. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je vais juste pas rajouter, parce que... Non, c'est juste pour donner un petit peu le sentiment que j'ai eu quand je suis allée là-bas. Moi, ça fait 15 ans que je priais pour la Corée du Nord avec l'Église persécutée. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu un choc. Dans le sens où, déjà au niveau des Coréens, pendant la conférence, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je trouvais ça vraiment super que la jeune génération ait repris le flambeau de prière. Et c'est vrai que la deuxième chose, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que quand on est allé à la frontière de la Corée du Nord, on a eu une partie d'une vision et Cyril a eu l'autre partie. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai bien vu le vent enlever. Enfin, je voyais, moi, la Corée du Nord de l'autre côté. Bon, Cyril ne l'a pas vu, moi, je l'ai vu. Et il y avait un village de l'autre côté. Et à un moment donné, j'ai vu donc le vent a vraiment, les nuages sont revenus et une tristesse. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi? Et moi, j'avais senti que le fait que ça soit, qu'il y ait eu le soleil sur cette partie de la Corée du Nord, j'ai dit merci Seigneur de ce que tu es en train de faire. Et j'avais vraiment un espoir qu'il allait se passer quelque chose. Et là, quand j'ai revu les nuages se remettre, mais une tristesse. Et quand j'en ai parlé à Cyril, il me dit, mais ça m'a réconforté de me dire, mais ils sont en train, enfin, Seigneur travaille dans l'invisibilité. Hein, un manteau d'invisibilité était sur la Corée du Nord, mais que le Seigneur combattait et était en train de faire son œuvre dans cette partie de la Corée. Et c'est vrai que pour moi, ça a été merci Seigneur de ce que les Coréens du Sud, bon, qu'on a vu et avec qui on a prié, ils sont très très reconnaissants de ce que on se déplace pour eux, on prie pour eux et toutes les interventions qui ont été faites des représentants des 16 nations confirment qu'il y a quelque chose qui va arriver et que chacun avait des versets bien précis et ça ne pouvait être que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment en marche. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui va se passer. Bon, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais c'est vrai que c'est encourageant de voir qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Bien, je vais abuser de votre temps, on va quand même prier tous ensemble. Alors si vous voulez crier « Juyo », vous pouvez, hein, « Ô Seigneur ». Seigneur, nous voulons vraiment encore proclamer que tu es le seul Dieu. Et nous le proclamons sur la Corée du Nord. Il n'y a que Jésus, uniquement Jésus, que Jésus, il n'y en a pas d'autre. Merci pour ce que tu fais et que tu caches, Seigneur. Merci de cacher ces choses aux faibles, aux riches et aux intelligents, comme tu as dit Jésus. Merci de sauver ce peuple et nous te présentons tous ceux qui meurent de faim, tous ceux qui sont désespérés actuellement, tous ceux qui font le choix de la violence car ils n'ont jamais entendu parler de toi. Seigneur, interviens, Seigneur, tous ceux qui risquent de mourir, qui sont en train de mourir, nous crions non, 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 Jésus. Ou tu te révèles directement à eux, ou tu les laisses en vie jusqu'à ce que la parole puisse être prononcée, puisse être annoncée, qu'ils puissent l'entendre. Merci pour tous ces réfugiés qui ont cru en toi malgré l'endoctrinement qu'ils avaient. Merci de continuer. Merci de continuer de préparer nos frères et sœurs du Sud, Seigneur. Et nous te prions pour tous les Coréens, Seigneur. Nous voulons vraiment, comme ils le disent, une réunification par l'Évangile. Seul l'Évangile, seule ta grâce peut le faire. Et nous te demandons maintenant de le faire, Seigneur Jésus. Nous voulons te prier avec Acte 12. Nous te prions pour tous ceux qui sont en prison, Seigneur, ces trois points. Nous te prions pour ceux qui sont en prison, Seigneur, les dirigeants d'église, l'apôtre Pierre, mais tous ceux qui sont dans des prisons qui ont été énumérés déjà au début du culte, tous ceux qui nous prennent si facilement, la moquerie, les critiques, Seigneur, l'esprit français et toutes ces choses culturelles, mais que nous, alors que tu nous as changés, nous sommes des nouvelles créatures que nous continuons à maintenir et à nous complaire dedans, Seigneur. Pardonne à ton Église, Seigneur. Merci de ce que tu fais aussi pour la France, Seigneur. Nous croyons que ce que tu fais en Corée du Sud, du Nord, au Sud et au Nord, mais surtout en Corée du Nord, maintenant, nous avons voir ta gloire, tu le fais aussi dans notre pays, Seigneur. Tu es le même, et c'est toi qui viens, qui prends tout. Ta gloire est en train de venir, Seigneur, et sauve le maximum, Seigneur. Sauve tous ceux qui sont appelés, Seigneur. Nous crions à toi. Aie pitié de nos voisins, Seigneur. Aie pitié de tous ceux qui, les autorités qui se prennent comme Hérode pour un Dieu, Seigneur. Aie pitié d'eux s'il est encore possible, Seigneur. Nous te prions pour notre président, pour tout son entourage, pour toute la classe politique française, Seigneur. Aie pitié et interviens. Interviens, Seigneur, que tu n'aies pas besoin d'envoyer des anges les frapper, Seigneur, que vraiment la crainte de Dieu revienne. La crainte de Dieu revienne dans notre pays, Seigneur, dans notre nation, Seigneur, au milieu de nous et aussi parmi tes enfants, Seigneur. Nous n'oublions pas ta parole qui dit que le jugement commence par la maison de Dieu, Seigneur. Vraiment, étends ta main et libère, Seigneur. Et merci, merci encore pour ce que tu fais. Merci pour ce inéni, Seigneur, que tu viens, le Seigneur vient, et nous devons répondre. Qu'est-ce que nous allons répondre? Nous allons répondre, nous voici, me voici. Il le demande individuellement à chacun d'entre nous, et si ce matin quelqu'un veut se décider à lui dire, me voici, j'accepte ce que tu me dis, et de t'appartenir et de te suivre, vous le pouvez aussi. Seigneur, merci pour ta grâce qui va nous surprendre et nous te bénissons pour cette moisson qu'il y aura en Corée du Nord et qui va gagner le monde quand on saura, Seigneur, ce qui se passe, que tu caches actuellement pour protéger ce que tu fais. Mais tu as plusieurs coups d'avance sur toutes les menaces et de la Corée du Nord, tous ces missiles qu'ils sont en train de faire alors que la population meurt de faim, Seigneur. Seigneur, cela nous dépasse, mais toi, tu sais tout, tu sais encore plus. Et tu continues à les aimer et tu vas les délivrer. Au nom de Jésus.